voudrais juste commencer ce temps par la prière. Ouais, Seigneur, nous voulons vraiment nous placer devant toi pendant ce moment pour que tu puisses, par ta parole, nous guider, nous conduire, nous inspirer, nous aider dans notre marche avec toi. Notre désir, c'est vraiment de mieux t'aimer, mieux te connaître, mieux te suivre. Seigneur, conduis-nous dans ces temps et parle-nous, dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien les bonnes prédications. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais en faire une, je vous dis juste que j'aime bien. Surtout celles sur les textes un petit peu compliqués. Vous savez, ces textes qu'on a un petit peu du mal à comprendre, le sens nous semble un petit peu confus, ou parfois sur des textes qui, malheureusement, ont un sens beaucoup trop clair, et on a un peu du mal à se dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre ça? Et quand quelqu'un vient et nous éclaire sur un sens qui nous avait échappé, ou nous donne un véritable et puissant encouragement à accepter et à vivre quelque chose de difficile, il y a tout à coup une telle satisfaction d'une pensée claire, cohérente, d'un nouvel éclairage pertinent ou d'un encouragement réaliste, mais motivant. Et je remercie Dieu parce que je trouve que nous sommes bénis d'avoir des frères et des sœurs entre notre Église et celle de Brignoux qui ont ce don de pouvoir apporter ces prédications qui nous parlent. Et puis parfois, on est confronté à des textes dans la Bible, que ce soit lors d'une prédication ou tout simplement lors d'un culte personnel, où on a l'impression qu'il n'y a rien de franchement compliqué, en apparence en tout cas, ou surtout rien de franchement nouveau. C'est des textes, on les connaît peut-être par cœur, mais on parle de choses connues, de choses qu'on a maintes fois dites ou entendues, des textes qui ne nous parlent pas vraiment aujourd'hui, ou qui ne nous semblent pas pertinents par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et puis, on travaille ces textes, on médite ces textes, et parfois ils prennent une nouvelle dimension. Tout à coup, ils nous parlent. Ou pas. Parce que ça arrive, des fois, qu'effectivement, il y a des textes de la parole qui ne nous parlent pas tout à fait ou pas beaucoup ce jour-là. Mais le travail que peut faire la parole de Dieu dans nos vies, par son esprit, il ne se mesure pas à l'émotion ou la satisfaction immédiate de cet encouragement dont on avait envie aujourd'hui, ou de cet éclairage nouveau et pertinent. Le travail que fait Dieu à travers sa parole, c'est un travail de fond. Un peu comme un instituteur ou un professeur qui redit, répète, reformule souvent les mêmes idées, des idées qu'on a besoin d'entendre plusieurs fois pour vraiment les assimiler et les vivre un petit peu mieux. En préparant le texte de ce matin, je me suis demandé si ce n'était pas la pensée de Pierre. Si on revient sur le contexte de cette première épître, Pierre s'adresse à des chrétiens qui ne font pas encore face à une persécution organisée, institutionnelle, comme on la trouvera à la fin du 1er siècle, mais des chrétiens qui font face à une hostilité grandissante, une opposition de tous ceux dans la société qui rejettent l'Évangile. Il parle effectivement de rejet, d'injures, de violence et de calomnie vis-à-vis des chrétiens. Et Pierre veut encourager ses croyants dans la foi qui passent par des souffrances, des épreuves qui viennent de cette opposition et de ce rejet grandissant de leur entourage ou de la société. Si on regarde un petit peu le plan de cette lettre, alors on peut trouver plusieurs découpages possibles, mais globalement on voit qu'il y a quand même deux grandes sections dans cette lettre de Pierre. Deux grandes sections qui sont encadrées par une première partie avec des salutations, des encouragements divers, et puis à la fin une conclusion qui va aussi dans ce sens-là. Et dans ces deux grandes parties, on voit une première partie avec des impératifs, des caractéristiques de la vie chrétienne, assez générales, mais fondamentales. Des caractéristiques qui sont profondément ancrées dans le salut que Dieu nous accorde. Dans les prédications précédentes, on a pu voir avec Serge et Janine une première série de ces impératifs général de la vie chrétienne, au travers de l'espérance, de la sainteté, de la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour pour les autres et du désir de la parole. Et puis Teresa, une prochaine fois, nous parlera d'autre chose, et je ne vous en dis pas plus pour garder le suspense. Et puis, il y a une deuxième partie où Pierre va effectivement encourager les chrétiens par des choses bien plus spécifiques pour les aider à vivre dans une société païenne et profondément hostile à la foi. Et je trouve que c'est intéressant que Pierre n'attaque pas directement par ses encouragements spécifiques à cette situation difficile de ses lecteurs. Il en parle un petit peu en introduction. Il leur parle de la joie de l'espérance, joie qui peut être mêlée d'une tristesse passagère par les épreuves qui peuvent renforcer ou purifier notre foi. Mais il parle spécifiquement de ces encouragements liés à leur situation dans la deuxième partie de la lettre. Dans cette première partie dans laquelle nous sommes, il reste sur les fondamentaux. Un peu comme pour nous dire, finalement, quelle que soit votre situation, quelles que soient les circonstances, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier et des choses qui sont vitales. Le texte sur lequel nous nous arrêtons ce matin, c'est 1 Pierre 1, du verset 22 au chapitre 2, verset 3. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit « Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Effectivement, ce texte n'est pas particulièrement difficile ou confus. Il parle de choses peut-être qu'on a déjà entendues, déjà vues, déjà dites. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est un texte qui est quand même vachement dense. Si vous regardez, en très peu de versets, Pierre y parle d'obéissance, de vérité, de purification, d'amour, de vie nouvelle, de semence immortelle, incorruptible, de parole vivante, éternelle de Dieu, de la temporalité de l'homme, du rejet du mal, du désir de la parole, de grandir pour le salut, d'expérimenter la bonté du Seigneur. Tout ça en 7 versets. Waouh ! Si on y regarde de plus près, effectivement, Pierre nous donne deux exhortations. Deux exhortations ou deux impératifs qui tournent autour de ce qu'on pourrait appeler une structure ternaire, qu'il a déjà utilisée dans les exhortations précédentes. Ternaire dans le sens où chaque exhortation se déroule en trois points. Premier point, une préparation. Pierre explique que quelque chose est fait ou a été fait dans la vie des croyants et qui conduit ou qui fait place à l'exhortation qu'il va nous donner. Ensuite, il nous donne cette exhortation, un impératif, ce que nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre. Et puis, il va rappeler un fondement, c'est-à-dire que pour vivre pleinement cette exhortation, on peut se baser sur quelque chose. Si je prends la première exhortation que Pierre nous donne, l'impératif de l'amour au sein de la famille de Dieu. Il nous dit au début, et c'est la préparation, que l'accueil de la vérité dans notre vie et puis la soumission à cette vérité va nous conduire à la purification. Pour Pierre, le point de départ de ce raisonnement, c'est qu'il y a une vérité. La suite de ce texte met en évidence que cette vérité, c'est la parole de Dieu, l'évangile. C'est une vérité et parce qu'on s'y soumet, parce qu'on y obéit, cela va conduire à la purification et notre purification va rendre possible l'amour fraternel. Il y a un organisme chrétien en Angleterre qui a fait une expérience récemment sur la manière dont une quarantaine de jeunes adultes de la génération Z perçoivent des récits bibliques qui parlent de la grâce de Dieu. Jonas, la femme samaritaine, le paralytique ou Zachée. Ce qu'ils ont amené en conclusion de cette étude, c'est une invitation à tous les chrétiens à réaliser que cette génération, la génération Z, pense et comprend les choses bien différemment de nous. Et si nous, quand je dis nous, c'est les gens un petit peu plus âgés qui ont quelques cheveux blancs comme moi, ou les chrétiens de longue date, voyant dans ces textes facilement la grâce de Dieu, pour les gens de cette génération, c'est un peu moins évident. Et entre autres, en étant confrontés à ces textes, certains ont reproché à Jésus de, je cite, « remettre en question le récit culturel dominant selon lequel chacun a sa propre vérité et peut croire ce qu'il veut, tant que cela nuit à personne. » N'est-ce pas une pensée que nous retrouvons fréquemment aujourd'hui ? Et pourtant, il y a quelque chose d'ironique là-dedans, dans cette pensée actuelle qui s'offusque face à tous ceux qui ne pensent pas ça. Parce que s'offusquer, ça sous-entend qu'il faudrait convaincre que chacun peut avoir sa propre vérité. Et que chacun a sa vérité, ça devient la vérité à promouvoir et à défendre. Et vous comprenez bien que l'argumentation se contredit elle-même. Si je ne suis pas d'accord avec cette phrase que chacun peut avoir sa vérité, pourquoi quelqu'un essayerait de m'en convaincre ? Ou pourquoi est-ce que ça suscite l'émotion si j'adhère pas à cela ? On retrouve derrière cette pensée quelque chose qui tient du péché originel qui a entraîné la chute. Je veux décider pour moi ce qui est bien et ce qui est mal. Je veux être mon propre juge. Je veux être Dieu. La vérité biblique, ce n'est pas une vérité subjective. Ce n'est pas une croyance qu'on pourrait choisir selon notre sensibilité. Et ce n'est pas non plus un état des choses que l'on peut constater. C'est-à-dire, je suis là ce matin avec vous, c'est la vérité, vous pouvez tous le constater. Non, la vérité biblique, c'est une vérité contraignante, dans le sens où ce n'est pas simplement question d'accepter un concept ou une idée, mais il est question d'accepter quelque chose qui me demande un positionnement, qui me demande une action, qui me demande une remise en cause. La simple vérité de l'Évangile, c'est que d'un côté, nous sommes perdus, que nous ne pouvons rien faire pour nous sortir véritablement de nos fautes, de nos erreurs, de nos manquements ou de notre incapacité à vivre pleinement notre humanité. Nous sommes incapables de régler le problème du mal qu'on doit bien constater dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Et ça, si on veut être honnête, on ne mérite rien, même si parfois on essaie de se convaincre du contraire. Et la vérité biblique, c'est aussi que de l'autre côté, Dieu s'est approché de nous, nous a aimés, nous a pardonnés, nous a accueillis, nous a restaurés. Et même, il y a quelque chose d'encore plus ahurissant, c'est que Dieu nous élève et nous honore en faisant de nous ses enfants et ses héritiers. Et ça, c'est une vérité contraignante. Parce que soit je l'accepte et je dois vivre en conséquence, soit il faut que je l'ignore. Accepter cette vérité, s'y soumettre, ben ça nécessite forcément d'abandonner mon orgueil, mon égoïsme, de m'ouvrir aux autres qui sont dans la même situation que moi. Et donc ça m'amène à enclencher un travail de purification de mon cœur. Pas juste par mes efforts, mais parce qu'en me soumettant à la vérité, je rends possible l'action de l'Esprit de Dieu en moi. Et si mon cœur commence à être purifié, alors je peux commencer à aimer vraiment, avec sincérité et sans hypocrisie, comme nous le donne cette première exhortation de Pierre, dans ce passage. Aimez sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Deux fois, Pierre utilise le terme « amour ». Et il utilise les deux termes qu'on retrouve quasi systématiquement dans la Bible. Le premier, c'est « Philadelphia », c'est le premier passage où il l'utilise. Enfin, le premier verbe « aimer » qu'on voit ici, c'est ce terme « Philadelphia ». Et puis après, il utilise « agapé ». L'utilisation de ces deux termes nous montre que Pierre n'est pas en train de parler d'émotions, de sentiments quand il parle de nous aimer les uns les autres, mais de quelque chose de bien plus profond et d'engageant. Le terme « Philadelphia » correspond à l'affection fraternelle. Il parle de liens affectifs qui nous unissent, parce que nous sommes conscients que nous sommes liés les uns aux autres, que nous sommes unis par quelque chose d'important que nous avons en commun. Nous sommes une famille. Et réaliser ça, nous conduit à nous soutenir mutuellement, à être un support, un soutien, une aide les uns pour les autres, à être solidaires. Encore une fois, pas juste dans les sentiments, mais dans la pratique, dans l'aide concrète qu'on peut s'apporter. Aimer Philadelphia, c'est porter le souci du besoin de l'autre. Alors, j'aime pas trop le terme souci parce qu'il fait référence à se faire du souci. L'idée, c'est pas de se faire du souci, c'est porter le souci du besoin de l'autre. Vous comprenez la différence, la subtilité. Avec agapé, ce deuxième terme, la notion d'amour devient plus englobante. Dans certaines traductions, on le traduit par charité. Il est question là d'un dévouement pratique à l'égard du prochain, d'un service volontaire, concret. Ce terme agapé, c'est l'amour désintéressé, c'est l'amour sacrificiel. Ce qui est important pour moi, ce que je recherche, c'est ce qui est bien, bon et sain pour toi, sans arrière-pensée. Aimer, agapé, c'est porter le souci du plus grand intérêt de l'autre, du plus grand bien pour l'autre. Si on s'y arrête, même une demi-seconde, on peut vite comprendre que vivre un tel amour, un amour aussi engageant, c'est pas facile, et surtout, c'est pas naturel. Alors Pierre vient nous rappeler un fondement essentiel. Cet amour n'est pas naturel, donc j'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie, d'une nouvelle vie pour pouvoir y arriver. Et cet amour ne peut se vivre qu'au travers de la nouvelle vie que Dieu nous donne. Pas parce qu'au travers de cette nouvelle vie, tout à coup, on devient super fort. Non. Mais parce que Dieu a déposé quelque chose en nous, quelque chose qui ressemble peut-être pas à grand-chose au début, comme une simple graine, mais quelque chose qui va grandir et se développer. Dans ce passage, il nous rappelle que tout ce qui a trait à l'homme est temporaire, passager, corruptible, donc se dégrade ou disparaît. Donc je ne peux pas compter sur mes propres forces, sur ce qui tient à l'homme, pour vivre ce plein amour. Et la Bible nous dit qu'il y a deux choses dans l'univers qui sont véritablement fiables, parfaitement stables, qui ne changent jamais. Dieu et sa parole. Il cite ce passage d'Ésaïe 40, et dans ce passage d'Ésaïe 40, on retient avec justesse ce contraste entre la fragilité humaine, la vanité de l'importance que se donnent les hommes, ce côté éphémère, et de l'autre côté, la réalité permanente, éternelle, impérissable de la parole que Dieu prononce. Mais le contexte de ce texte d'Ésaïe 40 est très intéressant aussi, parce que dans Ésaïe 40, Dieu est en train de parler à son peuple, il leur parle de délivrance, mais il parle du renouveau qu'il apporte. Et que c'est Dieu, par sa parole, qui apporte ce renouveau, et qui donc rend possible cet amour qu'il nous demande de vivre. La deuxième exhortation que Pierre nous donne, c'est le désir de la parole de Dieu. Dans ce premier bloc de préparation, il dit « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. » Le terme « rejeter » fait référence en grec à quelque chose qui tient du dépouillement, comme si on enlevait un vêtement, comme si on abandonnait quelque chose. Et le temps qui est utilisé de ce participe en grec, ça s'appelle laoriste, ça parle d'une action passée mais qui est vue dans sa globalité. Un fait marquant dans le passé mais qui est vu maintenant comme un tout et qui permet un changement d'état. Beaucoup de traductions plus anciennes ont gardé ce participe en disant plutôt que rejeter, ils disent « ayant rejeté toutes les formes de méchanceté » ou « vous étant dépouillé de toutes les formes de méchanceté » juste pour appuyer que ce fait marquant, il est dans le passé. Les traductions plus récentes appuient sur ce nouvel état en disant « rejetant, vous dépouillant de toute forme de méchanceté ». Ou d'autres, comme celle-ci, font référence à la continuité de cette action passée. Vous avez pris l'action, la décision dans le passé, mais vous continuez. Vous rejetez toujours, vous continuez de rejeter, de vous débarrasser de toutes ces formes de méchanceté. Pourquoi j'aborde ce point un petit peu technique ? C'est parce que je trouve qu'il nous apporte un éclairage intéressant. On est parfois horrifié par ce qui se passe dans les faits divers que nous rapportent les médias, qu'on écoute la radio, qu'on lise encore des journaux, qu'on regarde la télé ou Internet. Mais on est peut-être encore plus horrifié par les grandes affaires qui éclatent. On pense peut-être récemment à l'affaire Epstein, avec toute l'horreur de ce trafic sexuel, de ce trafic de mineurs, de pédocriminalité à grande échelle. Cet homme s'est construit un immense réseau d'élites et de personnalités, un véritable empire du mal autour de ses trafics et de ses crimes. On parle de plus de 1000 mineurs ou jeunes adultes qui seraient victimes de son réseau. On peut penser aussi à Gisèle Pellicot qui, le mois dernier, a sorti un livre retraçant son parcours terrible et dramatique. Il y a quelque chose de glaçant dans le mal. Ce mal qui déshumanise, ce mal qui réduit l'autre à un simple objet que je peux exploiter, abîmer ou même détruire. Parce que c'est ce que fait le mal. Il brise, il détruit, il amène la mort. Et quand on lit ces versets, ce dont nous parle Pierre peut sembler bien dérisoire face à ces tragédies, quand il parle de ruse, d'hypocrisie, de jalousie ou de méchanceté. Mais ce qui ressort de ces immenses tragédies, c'est que et uniquement l'aboutissement de tout ce que le mal a produit petit à petit. On est choqué par l'ampleur de ces affaires, mais toutes ces affaires ont commencé petitement. Toutes ces affaires ont commencé parce qu'on a laissé le mal s'installer. Et on a laissé le mal poursuivre. Être chrétien, être disciple du Christ, implique de prendre cette décision ferme et résolue de rejeter et d'abandonner le mal sous toutes ses formes, y compris celles qui pourraient paraître dérisoires et sans grande gravité. Parce que tolérer le mal, c'est s'engager forcément sur un chemin dangereux dont l'issue ne va être que terrible et néfaste. Et même si Pierre s'arrête à ce qui nuit à l'amour fraternel, puisqu'il en a parlé juste avant, il ne nous donne pas une liste figée de vices, il parle bien de la méchanceté sous toutes ses formes. Ce rejet, ce dépouillement de tout ce qui est mal, cette décision qu'en tant que chrétien nous prenons dans le passé et qui nous amène à ce nouvel état et décision que nous continuons à prendre tous les jours, vous continuez, nous continuons de rejeter. Ce rejet laisse la place à quelque chose de nouveau dans nos cœurs et un nouveau désir. Et c'est là l'exhortation de Pierre. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Paul aussi utilise l'image du nouveau-né dans ses écrits et du lait. Il en parle pour évoquer la faible maturité de certaines églises. Mais ce n'est pas du tout le cas là de Pierre. Ce que dit Pierre, c'est que, vous le savez comme moi, il n'y a qu'une seule nourriture adaptée au bébé. Dès qu'ils ont faim, regardez à quel point ils sont avides. Et je suis sûr que Olga peut en témoigner avec Raphaël. Quand il a faim, mais quelle impatience, n'est-ce pas? Ouais. Quel drame si les bébés ils n'ont pas leur lait tout de suite. Et on sait que c'est la meilleure nourriture pour eux, qu'il n'y a rien de mieux pour eux pour combler leur faim, mais aussi pour les faire grandir, pour les faire se développer. J'aime bien la traduction de ce verset dans la traduction du français simple. Ce verset 2 dit « Vous devez vouloir savoir plus sur Dieu, de plus en plus. Les nouveaux bébés veulent toujours le lait de leur mère, ce qui les rend plus forts. Le vrai message de Dieu est comme de la bonne nourriture qui vous rendra fort dans vos esprits. Apprenez plus sur Dieu chaque jour afin de continuer de grandir en tant que croyant. Puis à la fin, Dieu vous sauvera complètement des mauvaises choses de ce monde. » Pierre nous encourage à cultiver ce désir pour la parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleure nourriture pour nos vies, pour notre croissance, pour notre salut. Et le fondement qu'il donne, c'est « puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon ». Cet encouragement à désirer la parole s'appuie sur l'expérience que nous avons faite de la bonté de Dieu. Vous n'avez pas juste entendu que Dieu est bon, mais vous le savez. Sa parole nous le dit et vous l'avez probablement même vécu au travers du salut qu'il vous a déjà donné, mais probablement au travers de bien d'autres expériences, vous avez pu expérimenter que Dieu est bon. Alors si Dieu est bon, est-ce que ça ne nous donne pas encore plus envie de recevoir sa parole, d'entendre ce qu'il a à nous dire et par là d'être dans une relation encore plus profonde avec lui. En conclusion, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Il y a pas mal de temps, un haut gradé militaire, capitaine d'un des plus grands et des plus imposants navires de guerre, lors d'un jour de brouillard épais, distingue une lumière, la lumière d'un autre bâtiment au loin. Les deux lumières se rapprochent, mais il va falloir manœuvrer pour éviter la collision. À l'époque, pas de radar ou de GPS, alors la communication radio s'établit. De l'autre côté, le simple soldat qui se présente demande à ce navire de modifier sa course. Mais ce capitaine, rempli de fierté, ne l'entend pas de cette oreille. Alors il annonce qui il est, il rappelle son grade, ses décorations, et qu'à la tête de cet imposant navire, c'est lui qui somme l'autre de dévier de son chemin. Le soldat lui répond que lui, il n'est qu'un simple soldat, mais que puisqu'il est stationné sur un phare à terre, il lui semble bien plus sage que ce soit au capitaine de se résigner et de modifier son chemin. Cette anecdote nous parle évidemment d'orgueil, mais nous parle aussi de l'importance des phares. On a parfois l'impression d'être dans le brouillard, d'être un peu perdu, de ne pas savoir quoi faire, peut-être même de se noyer. Soit parce qu'on est comme les destinataires de cette lettre de Pierre et on passe par des souffrances ou des épreuves. Peut-être simplement parce qu'on est submergé face au flot incessant de sollicitations, de responsabilités, d'activités, de décisions à prendre dans nos vies personnelles, professionnelles, peut-être même dans l'Église. Peut-être qu'on ne se rend même pas compte, mais on est dans le brouillard et on a perdu le cap. Et Pierre, dans ce passage, nous invite à revenir aux choses importantes, aux choses fondamentales. Ne perdez pas cette vue. Les deux impératifs qu'il nous donne font partie des bases, des fondamentaux de la foi chrétienne. Il n'y a peut-être rien de bien nouveau pour vous ce matin. Aimez-vous les uns les autres et désirez la parole. Mais j'aimerais juste m'arrêter sur les adverbes que Pierre utilise. Désirez. Désirez ardemment. De tout votre cœur. Dans ce contexte où il parle à des gens qui sont sous pression, une pression qui va tourner à la persécution, la réponse n'est pas le compromis. La réponse, ce n'est pas de vivre sa foi en sourdine ou au ralenti. Dans ces paroles, dans ces rappels de Pierre, il y a quelque chose de radical, d'entier, mais aussi de passionné, de joyeux. Vivez votre foi avec ardeur, avec enthousiasme. Vivez votre foi avec ferveur. Vivez passionnément et pleinement pour Dieu. Si je reformule finalement ces deux impératifs, travailler à avoir un amour ardent les uns pour les autres, il a utilisé ce terme d'ardent. Cultiver ce désir passionné, que Dieu vous parle. Et dans la manière dont Pierre nous l'a présenté, on retrouve ce principe fondamental de croissance dans la parole, de résistance dans l'adversité, ou peut-être tout simplement de vie avec Dieu. Premièrement, agissez, mettez-vous en marche, œuvrez, persévérez, combattez pour grandir, pour avancer ou pour tenir bon dans notre vie spirituelle, la balle est dans notre camp. Les exhortations que Pierre nous donne, c'est des impératifs. Aimez-vous les uns les autres, désirez la parole, c'est à vous de faire quelque chose. Et en même temps, tout ce qui permet notre croissance, tout ce qui permet notre persévérance, tout ce qui permet notre vie avec Dieu s'appuie sur Dieu, repose sur lui seul. À chaque fois que Pierre a donné une exhortation, il a donné aussi un fondement sur lequel on peut s'appuyer. Et ce fondement, à chaque fois, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même et c'est sa parole. Travaillez à avoir un amour ardent les uns pour les autres. Parce que Dieu a semé en vous sa parole. Il a déposé dans votre cœur quelque chose d'éternel, d'indestructible et qui ne peut pas se corrompre ou s'abîmer. Et par cette nouvelle vie qui grandit en vous, vous pouvez vivre cet amour. Il va travailler avec vous dans ce sens-là. Cultivez ce désir passionné que Dieu vous parle. Désirez cette parole de sa part, cette parole qui apporte la vie, car Dieu vous a témoigné sa bonté, car vous l'avez expérimenté, car Dieu est véritablement bon. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ces rappels, merci pour ces fondements, sur lesquels on ne s'arrête peut-être pas toujours, mais quand on s'y arrête vraiment, on se dit « oui, il y a encore des défis pour moi là-dedans ». Merci parce que tu nous invites à vivre pleinement cela. Tu nous invites à nous mettre en marche. Dans les évangiles, les apôtres rapportent tes premières paroles, c'est « changez de vie, convertissez-vous ». La balle est dans notre camp. Mais pourquoi tu nous appelles à ça ? Car le royaume des dieux s'est approché de vous, car Dieu est là, vous soutient, car il agit en vous. Merci parce que si nous nous mettons dans cet élan, tu es là à nos côtés pour nous soutenir, nous encourager, nous porter. Oui Seigneur, je ne sais pas quels sont les défis de nos vies, des uns et des autres, à quel point nous sommes dans le brouillard, mais merci de nous rappeler que tu es la lumière. Permets-nous de continuer d'avancer vers toi. Encourage-nous dans notre marche pour ta gloire. Amen.